Et comment ne pas débuter cette page résultat de foot, particulièrement sans avoir une pensée pour le Mont-Léonais Philippe Rousseau, dit Larousse, bien trop tôt disparu. Dire qu'il adorait le ballon rond est un euphémisme, tant il a joué, encadré au sein des Trinitaires de Mont-Léon et même présidé durant 4 ans le football club du Pays de Loing. Un club qui précise sur sa page Facebook plus de 50 ans autour du stade de Mont-Léon et 42 ans dans le bureau. Il aimait le sport en général et les émissions de Colin, sur notamment le dimanche. Aussi, ce SMD du 14 janvier ne pouvait commencer sans ce clin d'œil à Larousse. On démarre donc sans transition par les résultats, notamment de Ligue 1, les 3 matchs qui se sont déjà déroulés. Vendredi soir, Marseille et Strasbourg avaient fait match nul, 1-1. Reims s'est imposé hier à Monaco, 3-1. Et Rennes, hier soir, s'est imposé à la maison face à Nice, 2-0. Vous noterez le programme de cet après-midi. À 13h, c'est Lille qui reçoit Lorient. Brest qui accueille Montpellier, c'est à 15h. Metz, Toulouse sur ce même horaire. Nantes à la maison face à Clermont. 17h05, Le Havre à domicile face à Lyon. Et puis ce soir, un beau match bien sympa, c'est Lens qui va défier à la maison le Paris Saint-Germain. Les résultats de Ligue 2 avec une journée qui s'est en grande partie jouée hier. Hier après-midi, Saint-Étienne et Laval n'ont pu se départager. C'est du 0-0. Bastia s'est imposé face à Angersco, le leader, 2-0. Caen a battu Concarneau, 1-0. Grenoble et Dunkerque n'ont pu se départager, c'est du 2-2. Le Paris FC a battu Annecy, 2-1. Guingamp s'impose à Quevilly-Rouen, 1-0. Le succès de Rodez face à Pau, 2-1. Troyes l'a emporté face à l'AC Ajaccio, 3-1. Amiens s'est imposé à Valenciennes, le dernier, 1-0. Une 20e journée qui va se clôturer lundi soir, demain donc à 20h45, avec Auxerre-Bordeaux, match de Ligue 2, mais qui, il n'y a pas si longtemps, eh bien, avait un parfum de Ligue 1. Le classement, on peut vous le présenter puisque beaucoup de matchs ont déjà eu lieu. C'est Angers qui, malgré sa défaite, reste leader avec 40 points. À la deuxième place, on retrouve Auxerre avec 38 points. Grenoble est troisième avec 35 points en compagnie de Laval. Pau est cinquième avec 31 points. Et puis ensuite, on a 4 équipes qui chassent derrière avec 30 points. Guingamp, Rodez, le Paris FC et Ajaccio. Dans le bas de classement, pour l'heure, 17e, Annecy avec 19 points. Quevilly-Rouen est 18e avec 17 points. Dunkerque est avant-dernier avec 14 points. Et Valenciennes ferme la marche de ce championnat avec 11 points. On attaque le championnat de national qui s'est joué vendredi soir avec la victoire du Red Star face à Orléans, 2-1. Le succès du Gol FC face au FC Versailles, 2-0. Avec Thibaut Rambaud, notre Saint-Aubinet, buteur une nouvelle fois avec l'équipe lyonnaise. Martigues a battu Dijon, 3-1. Rouen s'est imposé face à Marignane, 1-0. Châteauroux s'est incliné sur sa pelouse face à Nancy, 1-0 pour les Nancéens. Et puis Villefranche a battu Épinal, 1-0. Et puis les Chamois, eh bien, sont bien repartis en 2024 en s'imposant 2-0 face à l'équipe du Mans. Et puis les Choletais, quant à eux, jouaient face à Avranches et les Avranchinais se sont imposés face au dernier, le SO Cholet, 2-1. Les Chamois, on va revenir sur le classement, sont deuxièmes pour le moment. Alors le souci, c'est qu'ils ne vont jouer leur prochain match que le 26 janvier, puisque la semaine prochaine, Châteauroux va jouer en Coupe de France. Donc report du match Châteauroux. Il faudra donc attendre un peu longtemps pour les hommes de Philippe Insberger pour retrouver le championnat. Les Choletais, en revanche, le retrouveront le championnat dès la semaine prochaine, puisqu'à la maison, ils retrouveront Villefranche. Et pour nous parler de cette rencontre Avranches face à Cholet, eh bien, on est heureux d'accueillir Vincent Rotureau avec nous, l'entraîneur du SO Cholet. Bonjour Vincent.
Bonjour Vincent.
Merci beaucoup d'être parmi nous sur les ondes de Colline ce matin. On ne change pas une formule, Vincent. Voilà un peu plus de quasiment 20 ans que vous avez quitté le FC Bressuire. Alors j'ai retrouvé dans mes petites notes, ça va être le petit clin d'œil, vous avez été le 19e entraîneur des 27 qu'a connu le FCB depuis sa création. Vous avez été entraîneur du FCB de 97 à 99. Alors j'ai cherché, c'est l'actualité, c'est notre correspondant, notre ami Dominique Cadu qui a publié un très beau papier sur le FC Bressuire dans Histoire et patrimoine du Bressuirais, le numéro 89 qui est sorti juste avant Noël, et il avait listé tous les entraîneurs. Et donc, d'accord. Vincent, vous avez donc été ce 19e entraîneur. On parle d'abord de l'actu Choletaise, Vincent. Vous êtes arrivé en novembre dernier, vous avez joué vendredi soir à Avranches, et l'équipe prend un carton rouge dès les 10 premières minutes de la rencontre. Bah, évidemment, les dés sont pipés, Vincent.
Oui, c'est frustrant, c'est très frustrant. Bon, déjà, bonjour à tous, bonjour à Colline et bonjour à nos amis des Deux-Sèvres. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Oui, les dés, entre guillemets, ont été pipés d'entrée de jeu au bout de la 8e minute de jeu. Décision arbitrale très contestable, pour être clair. Et bon, ce qui fait qu'après, nous avons été menés 1-0 sur un très beau coup franc de Kerouédan. On revient 1-1. C'est une belle chose juste avant la mi-temps. Et puis nous cédons un peu plus tard en deuxième mi-temps. Et là encore de nouveau un fait de jeu à la 80e minute. Nous avons une balle d'égalisation sur un 2-2. Nous marquons et l'arbitre refuse. Franchement, je ne suis pas à critiquer le corps arbitral parce qu'ils font du très bon travail. Mais sur ce match-là, je peux vous assurer qu'on est très frustrés de voir les décisions qui n'ont pas été du tout en notre faveur.
C'est la malchance qui incombe souvent aux équipes qui sont mal classées. On a le sentiment que les arbitres font pas de cadeaux.
Oui. Alors, sur ce match-là, oui, j'ose le dire parce que c'est quand même deux décisions qui ont contribué à notre défaite. Maintenant, il ne faut pas regarder que ça. C'est frustrant. Bah, il faut avancer, il faut tourner la page et puis il faut maintenant déjà se concentrer sur le prochain match qui est Villefranche vendredi prochain. Oui, ça fait partie malheureusement de l'eau des équipes qui sont dans le bas du classement. Mais j'ai toujours pour objectif de positiver. Et de dire que aujourd'hui ça ne tourne pas dans notre sens, mais il reste encore 17 matchs à jouer. Donc il faut regarder de l'avant et puis il faut essayer de se remobiliser, regarder ce que nous avons bien fait, et puis limiter toutes ces petites erreurs ou essayer d'inciter à ce que les décisions tournent dans notre faveur.
Vous êtes arrivé en novembre, vous avez quasiment attendu la trêve des confiseurs pour faire un peu le ménage dans cet effectif Choletais. C'est bien ça, Vincent?
Oui, complètement.
Parce qu'il y a des choses que vous avez très vite senti qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas qui ne vous convenaient pas.
Il y avait un effectif qui avait été construit par le président en début de saison. Ensuite est arrivé Antar Yaya qui est arrivé 15 jours avant moi comme entraîneur manager. Et puis ensuite par rapport à l'histoire, à l'historique, moi je suis arrivé avec lui juste 15 jours après, mais on avait déjà décidé au travers donc de notre observation de dégraisser l'effectif qui ne correspondait pas à ce que nous voulions. Et puis ensuite, le président nous a offert à cette période de mercato la possibilité de recruter et de construire notre effectif. Et là, pour ça, c'est un grand merci au président parce que c'est rare de voir donc un effectif qui vient d'être remanié, notamment on vient de faire 5 nouveaux joueurs. Et écoutez, c'est une bonne chose pour nous. Maintenant, on a eu de travailler avec eux pendant la période des fêtes. Maintenant, on a notre effectif qui correspond à ce que nous souhaitons. Maintenant, il faut arriver à gagner les matchs.
J'ai adoré votre passage au FC Bressuire, Vincent. Vous le savez peut-être ne vous en rappelez-vous pas, également. Mais c'était super. Là, et après, Guingamp, La Roche, Nantes, le Qatar, oui. La Mauritanie, le Bénin. C'est un peu dans le désordre tout ça, mais quel parcours. Et j'ai presque envie d'être un tout petit peu provocateur, mais pourquoi êtes-vous arrivé dans cette galère choletaise, Vincent? Parce que vous prenez un club qui est dernier, qui va pas très bien. Qu'est-ce qui vous a motivé?
Non, il n'y a pas de galère. Alors, je reviens juste. Bon, moi, j'ai passé 2 années magnifiques, hein, 97-99. Et j'ai aimé les Deux-Sèvres, j'ai aimé Bressuire, le FCB avec nos flèches du Burkina, rappelez-vous.
Oui.
Traoré et Brahima Traoré. Un président, Pierre Goubiou, Monsieur Pacrot, Stéphane Viaud, actuellement le président. Bon, j'ai beaucoup de très très bons souvenirs avec la fameuse finale de la Coupe des Deux-Sèvres. J'adore Bressuire. Franchement, j'ai passé 2 très bonnes années. Après, écoutez, un parcours, vous l'avez dit, qui a permis donc de rebondir aussi bien en France qu'à l'étranger. Non, c'est surtout pas une galère. J'ai fait un choix. On m'a offert la possibilité de revenir en France. Le président Erusoglou avec Antar Yaya m'ont sollicité pour venir les accompagner parce qu'il fallait un entraîneur diplômé pour travailler avec eux. Je trouvais que le challenge méritait d'être pris en main. Je trouve qu'on fait du très bon travail avec Antar et le président qui nous laisse travailler, qui nous donne les moyens d'eux. Écoutez, c'est pas parce que vous êtes dernier qu'aujourd'hui que vous serez demain dans le bas du classement national. On a un challenge qui est intéressant à jouer. Il faut le jouer. Oui, c'est sûr que c'est compliqué pour diverses raisons. Maintenant, je répète encore une fois, il faut positiver, il faut regarder de l'avant, il faut persévérer comme dans la vie de tout ce que nous faisons. Et puis, il faut se dire que bah, il reste encore pas mal de matchs. Et à partir de là, je suis intimement persuadé qu'avec l'effectif qu'on a, on est capable au moins de gagner quelques matchs pour pouvoir nous donner un boost pour essayer de faire une série. Il faudra faire une série pour se maintenir, c'est sûr.
J'imagine de toute façon que vous n'êtes pas uniquement focus sur le classement. Vous pensez d'abord à votre équipe. Et puis on sait en plus que ce championnat national, il est tellement bâtard avec ces équipes qui sont aussi en difficulté financière. Ça peut aussi avoir une incidence en fin de saison. Ça peut quelque part aussi vous sauver, Vincent.
Oui, oui, c'est sûr. Alors, même si nous pensons qu'au terrain, parce que c'est le terrain d'abord qui te permettra de te maintenir en national, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, et je l'ai dit tout à l'heure, le président Erissoglou, il met les moyens, il a les moyens pour pouvoir avoir un club en national. On est passé à la DNCG sans aucun problème, ce qui est quand même à applaudir. Maintenant, on sait très bien qu'il y aura le terrain qui nous permettra de nous maintenir en national. Et puis, il y a aussi des équipes qui, malheureusement, vont tomber d'un point de vue d'ordre administratif et financier. Et peut-être qu'à la fin de la saison, ça fera le bonheur de Cholet. Je dirais, ça sera très bien et tant mieux. Maintenant, nous, avec Antar et avec notre effectif que nous avons, c'est de regarder le terrain et de gagner des matchs de façon à ce qu'on puisse se rapprocher des places qui sont 14, 13, 12, de façon à être dans la course pour le maintien à la fin de la saison.
Vous jouez Villefranche la semaine prochaine, le 3e. Ensuite, vous jouez Nancy, qui pour l'heure est 7e. Vous allez aussi jouer Épinal, qui est dans le bas de classement. Vous allez être très rapidement fixé, finalement, avec en plus cet effectif que vous avez remodelé.
Alors oui, on va être fixé. Oui et non, parce que vous savez, 17 matchs. Après, même si, je dirais, vous gagnez, vous gratouillez quelques points, un point de nul, plusieurs petits points de nul ou de victoire, rien n'est joué. Vous savez, il y a encore 15 matchs. 15 matchs fois 3, ça fait 30 points. Il reste beaucoup, beaucoup de matchs. Non, je pense que tant que mathématiquement ce n'est pas joué, il faut jouer les matchs, il faut aller jusqu'au bout. Et quand vous démarrez une compétition, il faut d'abord la terminer et ensuite on fera donc le point et le bilan.
Je vous entends parler, Vincent, je vous imagine dans le vestiaire, mais vos garçons du côté du SO Cholet, ils ne peuvent qu'adhérer à votre discours.
Écoutez, on essaye. D'abord, je pense que c'est comme tout ce que nous faisons dans la vie. Il faut être convaincu par ce que nous faisons. Et j'en suis convaincu, j'ai fait un retour et je suis très content d'être de retour. Et d'un point de vue d'ordre sportif, mais et d'un point de vue savourer la France, que c'est une fois que vous avez voyagé que vous appréciez donc la France pour tous les points qu'elle vous offre en termes donc sportifs, en termes humains, rapprochement familial, parce que vous savez que je suis de la Vendée, donc à Cholet c'est à côté, donc c'est beaucoup de points qui ont fait aussi que j'ai apprécié ce retour et j'ai décidé. Maintenant, le discours il est simple, hein, c'est comme dans la vie de tous les jours, il faut se battre. Il faut combattre avec les autres. Et puis, ben, faut essayer de trouver les éléments qui doivent nous permettre de basculer du bon côté.
Je savais, Vincent, que ce rendez-vous allait être hyper intéressant ce matin sur les ondes de Colline. Je vous souhaite, on vous souhaite, et puis on va suivre tous les dimanches, hein, on suit l'actualité du SO Cholet. On ne manquera pas d'être encore un petit peu plus insistant. Peut-être qu'on vous aura là prochainement, hein, vous, et je sais que ce sera avec plaisir.
Ça sera avec grand plaisir. Et puis, vous savez que, comme partout où je passe, je regarde les championnats et j'ai vu que Bressuire avait fait 0-0 hier contre Saint-Jean-d'Angély. Je suis les résultats. Ils vont peut-être remonter cette année.
Alors, vous allez rester sur les ondes parce que juste après la pub, on va évidemment évoquer le championnat de R1. Et en plus, vous savez qu'on a toujours un envoyé spécial pour les matchs à la maison du FC Bressuire. C'est l'œil de Jean-Michel Bernier. Qui est sans complaisance, hein. Quand ça va il le dit, mais quand ça va pas il le dit également, donc c'est plutôt intéressant. Et puis bien sûr Jean-Michel il a aussi interrogé Patrick Olive, on aura ça juste après la pub. Un grand merci Vincent.
Merci beaucoup Vincent et bon courage
et bon dimanche. Et bien sûr on va suivre l'actualité du SO Cholet. Vincent Retureau, l'ancien du FCB aujourd'hui entraîneur du SO Cholet, qui s'est incliné à Avranches 2-1. Vous l'avez compris, on marque une pause dans ce Sport Matin Dimanche et ensuite on reste avec les résultats nationaux. Il y a la Nationale 2, Nationale 3 et ensuite on ira retrouver notamment le FC Bressuire.
Sport Matin dimanche avec Cyrière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Allez, nous sommes le dimanche, le 14 janvier, la deuxième partie de ce Sport Matin dimanche, Vincent.
On est très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin. Nous étions avec Vincent Rotureau, l'entraîneur du SO Cholet, l'ancien Bressuirais, qui est revenu sur cette défaite de Cholet 2-1 face à Avranches. Dans le même temps, on rappelle que les Chamois victorieusement confortent ainsi leur place de deuxième dans ce championnat.
Sport Matin dimanche avec Cyrière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Championnat de National 2, les Herbiers qui ont bien réagi après leur élimination du week-end dernier en Coupe de France à la maison face à Châteauroux. Les Herbretais jouaient à Libourne, un match important pour le haut de classement. La victoire des Herbiers 2-1, superbe opération puisque les Herbiers creusent l'écart en haut de classement. Ils sont désormais seuls leaders avec 24 points. 4 points d'avance sur l'adversaire du soir, justement sur cette équipe de Libourne. La très belle opération. Dans ce même championnat, La Roche-sur-Yon va chercher le point du match nul à Trélissac, un but partout. Et puis le derby du Maine-et-Loire entre la réserve d'Angesco et l'Olympique de Saumur, un score de parité, un but partout. Le championnat de National 3 avec le derby vendéen entre Chaland et Fontenay, sans vainqueur, sans but, 0-0. Sablé qui s'impose à Château-Gontier, 2-1. La victoire de la réserve du FC Nantes dans son derby face à Vertou, 5-0. Saint-Philbert de Grandlieu qui s'impose à la Châtaigneraie, 1-0. Laval qui s'impose au Sable, 4-0. Et puis la réserve niortaise qui s'impose face au Poiré-sur-Vie, 2-1. Et Saint-Nazaire qui perd sur sa pelouse face à Choret, 1-0. La belle opération, c'est bien, il est bien ce résultat pour les Chorésiens qui se remettent dans le droit chemin. Le but inscrit par Saint-Nazaire contre son camp. Donc, à la 90e, ça fait du bien donc, pour cette équipe de Choret, qui est désormais 8e de ce championnat avec 17 points. Les Niortais, quant à eux, qui s'imposent grâce à Bentil et Mahania dans cette rencontre face au Poiré. C'est Saint-Philbert de Grandlieu qui est en tête avec 25 points. Vertou est 2e, 24 points. Le Poiré et la réserve de Nantes, 3e avec 23 points. On a dit Choray 8e avec 17 points. Et puis la réserve de Niort est 9e avec 14 points. La Châtaigneraie est 10e avec 12 points. Bas de classement, Saint-Nazaire, avant-dernier, 7 points. Et c'est les Sables qui sont derniers avec 6 points. Les championnats régionaux, on y vient avec hier soir le match entre Bressuire et Saint-Jean-d'Angély. Alors il nous disait 0-0, Vincent, c'est du 1 partout en fait, c'est du 1 partout entre les deux équipes. Sans plus attendre, le regard sans complaisance de notre envoyé spécial Jean-Michel Bernier sur cette rencontre.
Le FCB a pourtant bien commencé la partie, les 20 premières minutes ont été d'excellente qualité avec une maîtrise du jeu évidente. Jusqu'à un événement, une agression du numéro 8 de Saint-Jean sur Rambeau, qui l'a gravement blessé et qui a donc écopé d'un carton rouge. À partir de là, le match s'est complètement délité. Le FCB, est-ce qu'il voulait trop en faire ou autre, mais enfin, c'était un choix, une multiplication de mauvais choix, d'approximation, pour arriver à 0-0 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, on a un peu mieux commencé, mais sans être vraiment très maître du jeu, avec une équipe de Saint-Jean-d'Angély qui y croyait, malgré qu'ils aient joué à 10 pendant à peu près une heure. Et puis, le FCB a enfin été récompensé par un superbe but de David Sherif d'un tir de 20 mètres à peu près en pleine lucarne. On croyait le match plié, d'autant que des occasions très très nettes ont été n'ont pas bénéficié au FCB, pardon, qui a manqué des occasions mais vraiment évidentes. Et puis dans les arrêts de jeu, sur un corner, dans le brouillard, l'arbitre a sifflé un pénalty pour Saint-Jean qui a égalisé et qui, sur l'ensemble du match, par leur courage, leur abnégation, a mérité ce point du match nul. Il y aura sans doute mieux à faire dans les prochaines semaines, en particulier contre Noël-les-Aubiers dans 15 jours.
Voilà, le décor vous a été présenté, enfin le match vous a été présenté par Jean-Michel Bernier, qui ensuite est allé interroger Patrick Olive, un entraîneur lui aussi quelque peu un peu déçu de ce score de parité.
Je considère qu'on a fait 20 grosses premières minutes, qu'on a fait la même chose en début de deuxième mi-temps. Physiquement, c'est dur parce que on est dans une période de reprise, il fait froid, on a terrain gras, synthétique, donc c'est dur même pour les deux équipes. Mais c'est dur d'être en jambes. On a des blessés aussi, un peu à cause de ça. Et puis après, on fait ce qu'il faut pour prendre l'avantage, et c'était pas simple parce qu'une équipe, une bonne équipe comme ça, quand elle se regroupe à 10 et qu'elle défend avec les 10, c'est compliqué de trouver des solutions. On l'a fait. Et puis, il y a ce pénalty dans les arrêts de jeu, voilà, qui est, je peux pas dire moi d'où je suis, pénalty, pas pénalty, je trouve que c'est généreux, mais bon, voilà, je pense que c'est pas mérité sur le match parce qu'on n'avait pas concédé d'occasion, on n'a pas tout fait bien, on a raté le deuxième but pour mener 2-0, mais sur l'ensemble du match, on méritait de gagner, et puis tout le monde serait content, il y aurait personne de déçu. Donc, si on prend un peu de recul et qu'on voit le contenu, on n'a pas tout fait bien, mais on méritait de gagner.
Ouais, parce que dans le même temps, eh bien, Buxerolles s'est imposé face à Chauvigny 2-1, et au classement, les banlieusards poitevins reviennent sur cette équipe bressuraise après 10 rencontres de championnat, 20 points. Et pour Bressuire et pour Buxerolles, les Nueil-Aubrais, eux, sont également avec 20 points, mais ils comptent un match de plus, une équipe Nueil-Aubraise qui s'est imposée hier dans son derby face à Thouars. Les hommes de Sébastien Cuvier s'imposant 2-1 avec Saïd Tchek et Endoy pour les réalisations. Nueil-Aubrais, Camara ayant réduit le score à la 21e. Mais dès le premier quart d'heure, les Nueil-Aubrais ont été très très présents en inscrivant les deux buts à la 6e et à la 11e. Et c'est vrai que ce Nueil-Aubier-Bressuire va être ô combien intéressant lors de la prochaine journée de championnat. Dans cette même division de R1, eh bien Rochefort a battu Poitiers 4-0. Et puis cet après-midi, derby maritime entre l'Étoile Maritime, le FC, qui jouera face à l'équipe de La Rochelle. Le championnat de Régional 2 avec des Partenésiens qui ont perdu à Nintré 3-1. Et puis cet après-midi, vous noterez que l'Avenir 79 joue face à Beaumont-Saint-Cyr, que le Talus à la maison accueille Ligugé, et qu'il y aura le derby, enfin oui, en quelque sorte derby entre Montcoutant et la réserve Thouarsaise. Des résultats également en Régional 3 dans la poule A, avec pas de résultats dans la poule A parce que tous les matchs ont lieu cet après-midi. Pardon, Aubin-Rortet face à la réserve du FC Bressuire, Vrine en déplacement au Caponis, Cerizet qui se déplace à l'Alleu et Interbocage qui va jouer à Auzon. Des matchs, il y en a eu dans la poule B de ce championnat de Régional 3 avec le match entre les équipes de Sévrienne qui tourne à l'avantage du FC Autiz, victorieux de Saint-Sauveur 3-0. Le Pays Mélois en revanche a perdu à Ruffec 4-2. Et puis dans la poule C, la réserve de Saint-Florent s'est inclinée face à son homologue de Ligugé en terre poitevine, victoire de Ligugé 3-2. Et Selverine s'est inclinée à Saint-Palais, les locaux de Saint-Palais s'imposant 4-0. Et cet après-midi, la réserve de Saint-Liguière est en déplacement à Jarnac. On termine cette page foot avec les championnats départementaux. Les premiers résultats, hier soir en D1, la réserve du FC Bressuire a perdu à Hervaux-Saint-Jouin. Hervaux-Saint-Jouin s'imposant 4-2. Pas de match entre Gatifoot et Sud-Gâtine, match reporté. Et puis en départemental 2 dans la poule Nord, hier soir, duel de réserve entre Cerizet et Montcoutant, qui tourne à l'avantage du CO Cerizet, qui s'impose 5-0. Et dans la poule Sud de cette deuxième division, le FC Boutonnais qui bat Choret 1-0, le Pays Néo-Créchois qui s'impose face à Brulin 7-0. Et à l'extérieur, c'est la Venise Verte qui s'est imposée face à Val-de-Boutonne 1-0. Je vous ai pas donné le programme de cet après-midi parce que si vous avez envie d'aller sur le bord des pelouses, même s'il fera un peu frisquer comme il a fait frisquer hier soir au stade de Métayer à Bressuire, eh bien sachez que cet après-midi en D1, Effre-Fort-Prague joue face au Talus, que le Pays de Loing accueille Thouars, que Saint-Aubin-le-Clou joue face à Saint-Varan-Pierget et que Saint-Cerbouillet accueille le Pays Mexantais. Cet après-midi en poule Nord, en D2, le FC 3C joue face à Beaulieu-Breuil, match important pour le haut de classement. Nueil-Aubier accueille le FC Comores, le Pays Argentonais face au Portugais de Cerizet, le Pays Tenzéen accueille Terve et Saint-Sauveur joue face à Coulonges-Thouarsais. En départemental 2 dans la poule Sud, enfin, Beauvoir face au FC Autiz, Échiré-Saint-Gelais face à Frontenay-Saint-Symphorien et Mosée-sur-le-Mignon face à la réserve de Parthenay.
Sport Matin Dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Je pense qu'il fera un peu meilleur dans les salles de basket cet après-midi. Il y aura des rencontres, on va vous les présenter. D'abord des matchs, il y en a eu. Et on commence par les championnats nationaux. La Betclic Elite avec le match au sommet hier soir entre Paris et Monaco. Les Monégasques qui se sont quelque peu fait peur, mais qui sont victorieux de leur rencontre face à l'équipe parisienne. Victoire des hommes de Mike James, 92 à 85. Les Choletais, quant à eux, joueront cet après-midi, 14h30, hein, en tout début d'après-midi. Match à Villeurbanne et au micro de Tristan Blaisonneau, notre confrère et ami du Courrier de l'Ouest à Angers, eh bien Laurent Villa s'est confié d'abord sur l'adversaire du soir, sur effectivement cette équipe de Villeurbanne qui, même si elle est un petit peu moins bien en Euroleague, reste une équipe de fort calibre.
Moi je pense que c'est toujours une équipe constituée pour l'Euroleague et pour jouer un titre. C'est ce qu'ils ont encore affirmé après le changement d'entraîneur. Voilà, ils sont en mission, alors pas pour jouer les premiers rôles en Euroleague, parce que le championnat a bien avancé, mais pour gagner un titre et jouer le titre de champion de France. Donc, ils veulent la Leaders Cup, ils veulent la Coupe de France, et ils sont outillés pour. Aujourd'hui, ils sont sur notre dynamique aussi, ils ont fait deux bons matchs en Euroleague. On va les voir ce soir contre Berlin. Mais il y a quand même de sacrés joueurs et une profondeur de banc qui est incroyable.
Ouais, ils ont joué vendredi soir en Euroleague face à Berlin, cette équipe de Villeurbanne. Alors dans cette équipe Choletais, ça va un petit peu mieux. D'ailleurs, les Choletais se sont octroyés le droit de disputer une finale en quelque sorte. Ce sera mercredi soir prochain face aux Italiens de Sassari pour se qualifier pour le top 16 de cette BCL. En attendant, alors pourquoi cette équipe Choletais va mieux ? Bah, c'est l'arrivée notamment de Craig Randall, l'Américain, qui est un vrai véritable artilleur, qui est un shooter, qui parfois prend beaucoup trop de shoots, mais il shoot tellement qu'à un moment donné, il y a quand même ça fait quand même avancer le scoring. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir un tel joueur, même s'il est un peu déroutant aux yeux de Laurent Villa.
Les joueurs sur le côté étaient en train de l'encourager à prendre rapidement un quatrième shoot. Après, voilà, ça fait partie des choses que un joueur de ce talent-là, de cette confiance, avec cette confiance-là, a en tête. On n'est pas comme lui. On est plus sur la raison. Lui, il est plus sur la folie. Et tant mieux, parce que c'est ce qui réveille, en fait. Et au-delà de ça, parce que tout le monde peut réussir ou couper un tir, mais il attire le focus de l'adversaire énormément. Donc, tout le monde est focus sur lui. Ça permet aussi aux autres d'avoir plus d'opportunités, plus d'espace. Et on l'a vu sur le dernier match, notamment, il a deux séquences où il fait des passes décisives.
Oui.
Parce que le focus est sur lui. Qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, un joueur, deux joueurs pour le stopper, ça donne des ouvertures pour les autres. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Je ne pense pas, parce que c'est au contraire, c'est une valeur sûre et un point fort pour l'équipe. Donc au contraire, ça donne de la confiance, parce qu'on se dit à tout moment il peut prendre un coup de chaleur et faire une série et créer un écart ou renverser un écart. Et je pense que c'est exactement ce qui va se passer match après match.
Ouais, ce qui est intéressant avec Craig Randall, c'est qu'il ne se pose absolument pas de questions. Alors certes, il shoot, et à un moment donné, il est capable de faire des passes décisives. C'est ce qui s'est passé notamment à Sassari. Il faudra avoir un regard avisé sur ce néo-choletais, Craig Randall. Et puis, puisque l'on parle des tirs à trois points, j'ai envie de vous parler de ce match des U18, les jeunes filles du Réveil Bressuirey qui étaient en déplacement à Périgueux, parce que c'est un petit peu le même scénario finalement, avec des tirs complètement improbables, à des tirs à trois points. Rendez-vous compte, cette équipe bressuirey en terre périgourdine était menée de 6 points à 52 secondes de la fin. 3 tirs à 3 points, 3 tirs consécutifs et les Bressuirais tirent primés, tirent réussis et les Bressuirais finissent par s'imposer 74 pour Périgueux, 77 pour cette équipe Bressuirais. Un vrai hold-up, mais quelle fin de match avec ces 3 tirs primés. Le tir à trois points, c'est une sacrée arme quand même quand on joue au basket. Du basket chez les filles également, avec nos équipes de l'Ouest qui avaient fort à faire hier, puisque La Roche-sur-Yon jouait face à Basketland, le leader de ce championnat, et que l'UFAB Les Angevines accueillait Lyon-Villeurbanne. Deux défaites, somme toute, va-t-on dire, assez logique, même si les Angevines ont tenu tête à Lyon-Villeurbanne pendant 30 minutes. L'ASVEL s'impose 82 à 66. Et hier après-midi, Basketland est venu s'imposer en terre vendéenne face à La Roche-sur-Yon. Victoire de 10 points, 66 à 56. Résultat de basket en National 2 avec des Niortais dans la difficulté. Les hommes de Laurent Hay ont perdu face à Toulouse. Les Toulousains s'imposent en terre de Sévrienne 81 à 75. On retrouve Niort à la 12e place dans ce championnat, à l'antépénultième place, j'aime bien dire ce mot, mais c'est l'avant-l'avant-dernier, donc la 12e place pour cette équipe niortaise. En National 3, les Chorésiennes ont fait le travail face à Olivet, l'avant-dernier du championnat. Choré a cartonné 92 à 51. Elles vont attendre maintenant patiemment la rencontre de cet après-midi entre Saran et Limoges, puisque c'est le duel entre Saran et Choré dans ce championnat de National 3. Cet après-midi, si vous ne voulez pas aller sur le bord des terrains de foot parce qu'il fait froid, vous irez peut-être à la salle Valette de Bressuire. Les Bressuiraises de Sylvain Schwartz à la maison à 15h30 face au Poinçonnet. Un match ô combien important dans l'optique du maintien. National 3 chez les garçons avec la Séguinière en déplacement à Orléans. Les Ignérois se sont imposés 81 à 63. Ils sont 5e après 14 journées de championnat. 9 victoires pour 5 défaites, championnat emmené par le BC Touraine. Les championnats régionaux, et on commence par les filles en Régional 2, c'est Choret qui s'est imposé à Jarnac 72 à 51. Des Chorésiennes qui prennent provisoirement la tête de ce championnat, mais il faudra attendre la rencontre de Libourne cet après-midi. En Régional 3, on va rester avec les filles. Il y avait des rencontres hier soir, Régional 3, puisque les filles de Nueil-Aubier, l'ACNA Basket, se sont inclinées au Pays Mélusin 67-50. Et les Cerisiennes, le BC Cerisien en déplacement à Port-d'Envaux, s'est incliné, Port-d'Envaux s'imposant 52 à 45. Chez les garçons, Régional 2, j'ai oublié de vous signaler malheureusement la 13e défaite pour Nueil-Aubier. L'effectif a été complètement remanié cette saison. 13 matchs, 13 défaites pour l'ACNA qui s'incline à La Rochelle 68 à 47. C'était le premier match retour dans les championnats régionaux. Et puis en Régional 3 masculine, les Bressuirais, alors certes, ils ne sont qu'en Régional 3, on les a connus en National 3 il n'y a pas si longtemps, mais le goût de la victoire, ça doit être bien sympa. Ils se sont imposés dans un match important face au PTT de Poitiers, 73 à 41. Le carton plein, 12 matchs, 12 victoires pour l'équipe bressuiraise. C'était pas le match au sommet parce que les PTT de Poitiers étaient avant-derniers. Donc on va dire que la hiérarchie a été respectée avec cette victoire du réveil. Et dans le même temps, Choret s'est incliné à la Jarry, 58 à 50 dans ce championnat de Régional 3 chez les garçons.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Allez, un petit mot de hand avec vendredi soir, les Celloises à la maison, salle de la Clameur d'ailleurs, face à Saint-Grégoire, les Rennaises. Les Celloises qui s'imposent 26 à 20. On les retrouve à la 8e place de ce championnat de 2e division avec 5 victoires pour 4 défaites pour nos Celloises. En National 1, l'équipe 2 de Celles-sur-Belle s'est allée quelque peu rassurée en s'imposant à Bruguière. La victoire 29 à 25 dans ce championnat de National 1. Elles sont 7e pour l'heure. Et puis en National 2, elle est importante, cette victoire de Montcoutant. Les Montcoutantaises hier soir à la maison face à Pessac. La victoire d'un tout petit but, 28 à 27, mais surtout les Montcoutantaises font une belle opération au classement puisqu'elles se détachent de ces places du ventre mou. Là, elles vont recoller, elles sont actuellement cinquième, mais surtout elles voient s'éloigner les équipes. Et c'est un championnat qui est extrêmement serré puisque l'avant-dernier a 19 points et les Montcoutantaises avec cette victoire comptent 25 points. Donc la victoire ô combien importante pour démarrer 2024 sur de bonnes bases pour cette équipe montcoutantaise qui a eu quand même un effectif remanié avec notamment le changement d'entraîneur. Un mot de volley pour vous dire que les Niortaises étaient en déplacement hier à Charenton, le leader de ce championnat de National 2. Et là encore, hiérarchie respectée puisque Charenton s'est imposé nettement 3-7 à 0. Un petit mot de rugby pour vous dire que cet après-midi, le match est important pour les Rochelais en Coupe d'Europe à la maison, 16h15 face à Leicester. Il faut absolument s'imposer pour nos Maritimes. Les résultats ce soir à partir de 18h dans Sport Dimanche Dernière. Et puis, on avait mis un coup de projecteur sur les Jeux. On avait envie de faire ça en ce début d'année 2024 puisque lundi, on avait passé la barre des moins de 200 jours avant cette compétition. On en est à 194 jours et je remercie Noah qui est derrière la vitre, Hugo également, parce que vous avez été formidables les garçons dans la préparation de ce sport matin dimanche. Fabien également l'a été puisque Fabien cette semaine est allé interroger Sébastien Michaud. Eh bien oui, on avait envie de savoir où en étaient nos athlètes de Sévrien. On aura ce soir Hugo Hay en direct à 18h dans Sport Dimanche Dernière. Sébastien Michaud qui avec Fabien revient d'abord sur l'échéance de ce calendrier. Bah oui Sébastien, on est à moins de 200 jours.
200 jours, ça va passer super vite. Néanmoins, après, bon, on est toujours sur une période de, là, on est en train de finir la prépa physique, enfin, le gros du travail, donc là, c'est en train de s'achever au cours de la semaine. Donc, on va rentrer sur une phase de compétition après. Normalement, là, j'ai une date de prévue au Luxembourg le week-end, pas là, mais l'autre week-end d'après. Ensuite, je vais au meeting de l'heure à côté d'Evreux. Et après ça, normalement, je vais en Belgique, peut-être à Stockholm, et enfin, je finirai ma course au championnat de France élite en salle pour récupérer mon titre. Donc, faire des compétitions avec des bonnes performances qui vont pouvoir potentiellement me faire grimper de quelques places et potentiellement me permettre de me qualifier au jeu.
Ouais, cette qualification, elle risque, enfin, Sébastien ne pourra peut-être pas atteindre les minima 2,34, rendez-vous compte. Ça risque de se jouer au ranking. Explication avec notre sauteur cerisien.
Tu peux faire une petite estimation, 26-27 à peu près. Donc, grosso modo, faut que je gagne entre 3 et 4 cm dans l'idéal et être régulier à ces performances-là. Donc, moi, je sais que personnellement, de mon côté, la régularité est une force. Que ce soit dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Donc, quand je fais quelque chose, généralement, j'arrive à le reproduire plusieurs fois. Ça, c'est un atout de mon côté. Après, voilà, maintenant, il faut franchir le cap des 2,25 pour aller chercher 26-27.
Ouais, il veut pas se mettre de pression pour autant, Sébastien.
J'ai pas changé mes habitudes de vie. Je reste moi-même. Hein. Je veux dire, voilà, j'essaye de prendre toujours un peu de dispo en tant que sapeur-pompier volontaire, même si, bon, techniquement, j'en prendrai moins cette année parce que, bah, forcément, en priorité, il y a quand même l'objectif sportif, mais sinon là j'essaye d'avoir un train de vie qui reste quand même assez traditionnel par rapport à ce que j'ai pu faire jusqu'à présent.
Et pour tout vous dire, Sébastien aurait pu être avec nous ce matin en direct dans ce studio, sauf qu'il est en manœuvre. Il m'avait dit cette semaine, ben non, je suis en manœuvre avec les pompiers. C'est aussi ça, Sébastien Michaud, en préparation pour les Jeux, mais qui n'en oublie pas également les sapeurs-pompiers. Sébastien qui n'oublie pas l'aspect mental et qui veut surtout pas se mettre de pression inutile.
Moi, je pars du principe que il faut réfléchir un petit peu dans ce sujet, enfin à ce sujet-là comme les enfants. C'est-à-dire que les enfants, tu sais, ils se blessent rarement, mine de rien en fait. Hein. Quand tu regardes au quotidien, ils tombent, ils font des fois des actions, tu vois, genre où tu te dis mais quand tu es plus adulte, tu réfléchis, non mais il aurait pu se blesser. Enfin, et en fait, j'essaie de pas me prendre la tête, de faire ma vie normalement. Je me dis voilà, je me casse pas la tête à me dire bah, si je fais ça je risque de me blesser, si je fais ci je risque de me blesser. Non, j'essaye de vivre normalement. Après, je vais pas faire des choses stupides en sautant du troisième étage par exemple pour voir si mes genoux sont capables de tenir, quoi. Et j'essaye toujours d'avoir une vie à peu près normale.
Je le trouve plutôt intéressant finalement ce sport matin dimanche, parce qu'au-delà des résultats de sport et des réactions, on a aussi un peu des regards sur la vie, hein, à l'image de Sébastien ou à l'image tout à l'heure de Vincent Rotureau qui nous parlait de son parcours et qui disait ben voilà, faut jamais baisser les bras. C'est aussi ça finalement ce sport matin dimanche sur les ondes de Colline. Hein, Sébastien Michaud qui, bien sûr, ne veut surtout pas oublier ses sponsors parce que ça, bah, ça lui enlève une sacrée épine du pied. Et quand on est sauteur, c'est bien d'avoir les pieds tranquilles.
C'est primordial en fait. Enfin, je pense que sans eux, je peux juste que les remercier en fait. C'est incroyable parce que avec bah, du coup l'agence de com de Léo Jadot, donc Jadot Sport. On a monté un projet avec des partenaires qui se sont engagés sur le long terme. Ça a très bien fonctionné et ça te permet d'avoir l'esprit totalement libéré, de te focaliser que sur l'athlétisme pour le coup. Alors après, tu as d'autres problèmes qui arrivent, comme la blessure par exemple. Ça, c'est des trucs que tu n'anticipes pas. Mais disons que tout est fait pour que ça fonctionne. Et je veux dire, c'est des gens qui ont l'aspect local. Nous, on a créé une aventure qui a été quand même relativement locale. Le partenaire le plus loin à être excentré de, on va dire, du bocage, c'est Stilatois. qui se trouve sur Poitiers. Donc, je veux dire, ça reste une aventure quand même qui reste dans le 79 majoritairement. Et ça, je trouve ça bien parce que c'est des acteurs qu'on peut mettre en avant au quotidien. C'est pas forcément eux qu'on pense en tant que sportif en premier lieu à se dire bon, ça peut être des partenaires potentiels. Tout l'image que tu as du sportif qui est sponsorisé, c'est souvent Nike, Adidas, Puma, des grosses marques, mais ça arrive pas forcément à tous les athlètes. Et moi personnellement, je préfère avoir des partenaires locaux qui sont conscients de la chose, de l'engagement sportif qu'il y a pour pouvoir atteindre de la haute performance, et à travers ça, de pouvoir valoriser justement ce partenariat en les mettant en avant.
Sébastien Michaud, que on suivra bien sûr sur ce début d'année 2024. Voilà où il en est. À moins de 200 jours, on a dit 194 jours des Jeux Olympiques. À retrouver bien sûr Sébastien en podcast juste après notre émission. Et puis la flamme olympique, elle, pour clôturer cet épisode. Alors on aura Hugo S ce soir à 18h. On n'oublie pas Julie Chupin également, hein, mais les Jeux Paralympiques vont débuter un petit peu plus tard. Donc on ira la retrouver là aussi quand la barre des 200 jours sera franchi. Cette flamme olympique, elle va passer dans les Deux-Sèvres le 2 juin. Et le 2 juin, Noah vient de chercher ça à l'arrache un peu. C'est dans 149 jours précisément. Il y aura la flamme olympique dans notre département. Le comité d'organisation a annoncé que c'est le taekwondo qui sera mis en valeur lors du passage à Bressuire. Chaque fédération se voit attribuer un relais collectif et c'est donc la capitale du bocage qui a été retenue pour cet événement. Le cyclisme sera ainsi mis à l'honneur au Mont Ventoux, le rugby dans le Gers, à Auch précisément, le tennis de table en Maine-et-Loire à la Romagne, la voile en Vendée au Sable d'Olonne. Un fort aspect symbolique donc et une forme de consécration pour le Bressuirais Ali Goktas, engagé depuis plusieurs décennies. Il est aujourd'hui président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. C'est Myriam Baverel qui sera l'une des porteuses de la flamme, médaillée d'argent qu'elle a été aux Jeux d'Athènes. Elle a commencé sa carrière à Niort sous la conduite de Maître Battista. Ali Goktas se souvient d'avoir partagé quelques entraînements avec elle dans les années 90 et il salue ce choix.
On est très content que cet événement ait lieu sur Bressuire, puis en la présence de Myriam Baverel, c'est encore plus réjouissant. Que ce soit elle aujourd'hui, c'est tout à fait légitime pour porter cette flamme. Avec le statut qu'elle a actuellement de directrice des équipes de France, on ne peut être que plus fier.
J'imagine aussi votre fierté depuis le nombre d'années où vous êtes totalement investi.
Oui, ça ne s'arrêtera pas là, évidemment, qu'on le vit comme une consécration. Mais ça nous donne encore plus la flamme, excusez-moi pour le jeu de mots, mais on va continuer à assurer la promotion de cette discipline. On est engagé avec le club de Bressuire, avec son collectif d'entraîneurs, et ainsi qu'avec le comité départemental des Deux-Sèvres, et ainsi que la Ligue, dans une démarche de promotion. Et ça va contribuer, ça va que amplifier nos actions de promotion.
Ali Goktas au micro de Fabien Gazot. Et la flamme, on a eu le temps de rectifier, elle arrive le 2 juin, c'est dans précisément, tiens c'est pas mal, c'est un compte rond, 140 jours, dans 140 jours, elle sera donc dans les Deux-Sèvres, et le taekwondo sera donc célébré lors du passage à Bressuire le 2 juin. Le programme est en cours d'élaboration, sachant que le temps sera là relativement court, puisque sur cette même journée, la flamme passera aussi par Thouars, Parthenay, Saint-Mexant, Celles-sur-Belle, Coulon, pour finir sa traversée à Niort.
Tout ce que l'on sait, nous, c'est que l'on va porter la flamme sur environ 400 mètres. Nous sommes en réunion de travail avec le comité départemental, avec la Ligue et notre fédération, ainsi que la ville de Bressuire, pour mettre en scène des activités autour de cette flamme, bien évidemment. L'idée étant de marquer les esprits et l'histoire du passage de cette flamme sur Bressuire.
Le taekwondo, c'est typiquement le sport qui n'est pas assez en lumière et qui justement lors des JO bénéficie d'un peu plus de visibilité.
Bien sûr qu'on le regrette, nous acteurs organisateurs d'événements, que le taekwondo n'est pas suffisamment couvert médiatiquement. Ça, on en souffre quelque part, on le vit comme une frustration, et on va profiter de l'occasion pour casser tout cela et rendre le plus visible possible cette discipline.
Le Bressuire Alig Oktas, président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Taekwondo, et prenez date donc pour ce passage dans 140 jours le 2 juin prochain. Et j'en profite pour vous signaler qu'une compétition de Taekwondo sera organisée le 20 janvier prochain à la salle multisport du stade Métayer à Bressuire. Ainsi se termine ce sport matin dimanche consacré entre autres à l'olympisme. On le retrouve ce soir, hein, cette thématique avec Hugo Hay dès 18h en direct, avec d'autres résultats également, tous les matchs qui auront lieu cet après-midi, résultats et réactions ce soir dans Sport Dimanche Dernière, émission de ce matin à retrouver bientôt sur notre site colline-laradio.fr. Et puis n'oubliez pas la rediff tout à l'heure à 13h. Vous passez un excellent dimanche, une belle matinée, peut-être que vous êtes dans la cuisine en train de vous affairer pour le repas dominical. On vous souhaite une bonne matinée. Je sais qu'Hugo a concocté de la très belle musique, et puis puisqu'on en parle cuisine, il y a Hélène juste après le journal de 11h. Elles sont succulentes, les recettes proposées par Hélène et Jacqueline.
Hélène et Jacqueline est à retrouver également sur notre site internet, déjà en podcast.
Allez, bon dimanche, à ce soir, avec plaisir, 18h. Ciao.